RCF.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce mercredi 5 juillet, 18h10, 19h, on vous accompagne dans le magazine régional sur RCF, Reims-Ardennes, RCF, Cœur de Champagne. Comme tous les soirs, du lundi au vendredi, vous le savez, c'est la dernière semaine avant les vacances. Ça va être l'occasion d'aller faire quelques découvertes et découvrir notamment les offres touristiques qui sont sur le territoire, sur notre territoire, celui de la Champagne-Ardennes. On ira faire un tour du côté du domaine des Loches. C'est à Mazerny, dans les Ardennes, où deux gîtes ont été inaugurés la semaine dernière. On vous avait promis hier soir dans le journal régional d'y revenir aujourd'hui. Eh bien, la promesse est tenue puisque nous serons avec Yvan Lefebvre, le propriétaire des lieux, le copropriétaire des lieux avec son frère et sa sœur, qui nous expliquera comment lui est venue cette idée un petit peu folle, il faut bien le dire. Et puis, dans la même veine, nous serons également avec Daniel Thomas, premier vice-président des Crêtes Pré-Ardennaises, mais également natif du site des Domaines des Loches à Mazerny. Il reviendra sur l'histoire et sur le sentiment que ça lui procure de voir ce lieu splendide se transformer en gîte d'accueil. Au programme ce soir également, une deuxième partie d'émission totalement exceptionnelle. Un témoignage bouleversant de Marie-Dominique Bride au micro de Jean-Pierre Benoît. Elle sera la grande invitée juste après le journal régional. Elle a sorti un livre récemment, Témoignage du temps présent, l'abbaye de Saint-Hilaire. On l'avait accueilli dans les studios de RCF et on avait bien entendu qu'il y avait encore une richesse à nous faire partager à l'antenne. Elle sera avec nous de 18h35 à peu près jusqu'à 19h pour nous partager son histoire. Mais nous retrouverons aussi ce soir un de nos stagiaires à la rédaction, Raphaël Feillot. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Alexis.
Vous aussi, en quelque sorte, vous allez nous partager votre histoire puisque vous étiez déjà venu ici dans les studios de RCF en Sardaigne en stage. C'était l'an dernier à l'occasion d'un stage de 4e et cette année vous revenez sur la période de vos vacances, sur la base du volontariat. On vous retrouvera tout à l'heure un petit peu avant le journal régional et puis à l'intérieur du journal aussi avec une page météo. Nous on se met au vert avec la découverte du domaine des Loches à Mazerny dans les Ardennes. Yvan Lefebvre est le propriétaire de ce lieu et nous invite à le suivre.
Alors, ce qui est agréable, je pense, au premier coup d'œil quand on arrive sur le site, c'est de constater la présence d'arbres deux fois centenaires qui ont été plantés en même temps que la construction aux alentours des années 1818. Et des arbres majestueux qui ne laissent pas insensibles, je pense, dès qu'on arrive sur le lieu.
Alors aujourd'hui, on inaugure les gîtes au château. J'allais dire, c'est un pari un petit peu fou. Finalement, quand vous nous avez résumé l'histoire, on comprend bien que cette bâtisse a une histoire et qu'à un moment donné, il a fallu se dire, on prend le pari de faire les travaux et de rendre ce lieu un endroit exceptionnel.
Alors, c'est vrai que la valorisation du patrimoine bâti n'était pas le sujet le plus facile à traiter. Tout ce qui était espace naturel avait besoin d'être un petit peu remis en état, mais était quand même dans un état correct. Au niveau du bâti, il fallait trouver une valorisation et au départ on a hésité un petit peu avant de se tourner vers de l'aménagement en gîte. Et puis après, il fallait aussi se déterminer sur la typologie du gîte qu'on allait mettre en place. Est-ce que c'était du gîte de groupe? Est-ce que c'était du gîte de petite capacité? Et étant donné les espaces extérieurs qu'il y avait, on s'est dit que c'était quand même judicieux de partir sur un gîte de grande capacité.
Alors aujourd'hui, justement, si vous prenez nos auditeurs sur les ondes de RCF par la main et que vous les emmenez à travers les gîtes, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement sur ce site?
Alors, le site, il est constitué de... Enfin, c'est un vaste domaine d'environ 200 hectares, avec 130 hectares de forêt et puis un peu moins de 70 hectares de pâture. Donc, forêt diversifiée avec des chênes, des frênes, des résineux. Et puis, sur la partie pâture, qui est en fait une partie agricole, une exploitation agricole, on a développé de l'élevage de chevaux et de la prise en pension de chevaux, autant pour des chevaux d'élevage, donc reproduction, ou pour des chevaux en retraite.
Et sur la partie gîte, on est sur une offre à 15 plus 8, si je ne dis pas de bêtises?
Oui, c'est exactement ça. On est sur une offre de 15 plus 8 personnes, avec possibilité de regrouper les 23 résidents dans le grand gîte pour les moments de la journée.
Alors comment ça s'articule finalement? Est-ce qu'un particulier, par exemple un couple qui a envie de venir, il peut juste réserver une chambre ou est-ce que c'est vraiment des réservations qui s'adressent à des groupes plus importants?
Alors c'est effectivement des réservations qui s'adressent à des groupes plus importants avec la possibilité de louer le gîte de 8 plus le gîte de 15, donc pour une capacité totale, on l'a dit, de 23 personnes, ou éventuellement de louer indépendamment soit le gîte de 8, soit le gîte de 15.
Avec, pour parler de la douloureuse, mais ça peut aussi intéresser les auditeurs, ça représente quoi si on vient passer un week-end, un samedi, dimanche, par exemple, en saison, on approche de l'été, là, on vient passer un petit tour, on vous contacte, comment ça se passe, combien vous demandez aussi, surtout derrière?
Pour avoir un ordre d'idée, on est sur un tarif à la nuitée de l'ordre de 450 euros par nuit, avec un minimum de 2 nuits. Et à cela, il faut ajouter, ce qui représente une partie importante du budget, le budget pour le ménage et puis la mise en place de tout ce qui est couchage.
Entre le moment où vous avez eu possession du site et le moment des travaux, racontez-nous l'histoire en fait. Vous avez eu ce site à quel moment? Les travaux ont duré combien de temps? Et puis aujourd'hui, l'inauguration, si on retrace les moments importants, j'allais dire.
La première visite sur le site date de septembre 2017, donc ça fait déjà bientôt 6 ans. J'avais pas pris au sérieux quelqu'un qui m'avait dit « Oh ben vous en avez pour 3 ans pour rénover ». Alors il s'était trompé, oui, parce que je pensais que j'en aurais pour moins longtemps que ça et finalement ça a duré plus que 3 ans, donc je fais mon mea culpa par rapport à ce qu'il m'avait dit. Donc après cette première visite en 2017, on s'est déjà interrogé de savoir quelle destination on donnait à la partie bâtie. Après, quand on a choisi de développer ça pour faire de l'hébergement touristique, et il fallait se déterminer sur la typologie de l'hébergement. Avec les conseils des uns des autres, et notamment d'un architecte qui m'a dit qu'un bâtiment, ça avait une âme et il ne fallait pas non plus détruire l'âme d'un bâtiment, on a fait le choix de conserver un peu la structure du bâtiment existant. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers du gîte de grande capacité, pour ne pas dénaturer le bâtiment lui-même.
Mais alors Yvon Mazerny, j'ai quand même une question, c'est pourquoi ici? Pourquoi Mazerny? Pourquoi les Ardennes? Est-ce qu'il y a des attaches particulières peut-être?
Alors pourquoi ici? Alors pourquoi les Ardennes? En fait, au départ, j'étais à la recherche d'une structure pour faire justement de l'élevage de chevaux et de la prise en pension de chevaux. Et le nord des Ardennes s'y prête très bien puisqu'on est sur des terres à vocation herbagère. Et puis c'est un peu en visitant par hasard, enfin par hasard, pas que, mais en venant visiter le site que je suis un petit peu tombé sous le charme. Au niveau des herbages, le projet, il était un petit peu déjà calé. Je savais vraiment ce que je voulais faire, donc c'était de la valorisation de surface en herbe pour prendre des chevaux en pension. Et puis après, effectivement, fallait trouver l'utilisation pour le reste du patrimoine.
Une aventure qui vous a réuni quelque part, si j'ose dire, avec vos frères et sœurs. C'était important qu'ils puissent eux aussi s'engager dans le projet?
Alors c'était important pour deux raisons. Pour des raisons, on va dire, familiales, on a déjà fait pas mal de projets de manière collective, commune, par nos parents qui nous ont un peu initiés à tout ça. Et puis après, c'est vrai que c'était un projet financièrement qui pouvait être lourd à porter. Donc quand on est en groupe, on est toujours plus fort. Alors c'est une évidence, mais là c'était une réalité. C'est vrai que si j'avais été seul, je pense que j'aurais pas été accompagné comme je l'ai été par les banquiers. Donc c'est vrai que le fait d'avoir joué collectif, c'est ce qui a permis aussi d'aboutir à ce résultat-là, ouais.
Alors vous avez le droit de ne pas répondre à la question, mais justement en termes de budget, en termes de à la fois l'acquisition, les travaux, etc., ça représente quoi finalement ce domaine?
C'est quelques millions d'euros, on va dire, oui.
C'est un investissement conséquent avec une rentabilité qui s'étale sur le long terme?
Oui, c'est une rentabilité sur le long terme, voire le très long terme. Après, c'est aussi la constitution d'un patrimoine. L'idée, c'est pas forcément de profiter de quelque chose aujourd'hui, mais c'est de remettre en valeur un patrimoine. Et puis aussi, avec l'idée derrière, pourquoi pas de le transmettre un jour à nos enfants ou à d'autres générations, oui.
Et pour parler un petit peu de vous, justement, si on fait votre portrait, vous êtes père de famille? Est-ce que vous êtes originaire des Ardennes?
Alors effectivement, je suis père de famille, 4 enfants. Donc le plus grand, 17 ans, la dernière à 5 ans. Donc 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Je suis à l'origine agriculteur dans la région de Rethel, mais qui n'est pas une région propice à l'élevage. C'est pour ça que je me suis orienté vers le nord des Ardennes et aussi très attaché à mon département. Et donc j'étais très content de pouvoir trouver une solution proche de chez moi.
Yvon Lefebvre, quand on voit ce domaine magnifique, aujourd'hui en plus on a le soleil, on dit souvent les Ardennes, il ne fait pas toujours beau. Force est de constater qu'en ce moment le soleil rayonne. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour la suite?
Bon, écoutez, le plus dur a été fait, même si tous les jours, il faut remettre l'ouvrage sur la table. On est content de la réalisation qu'on a faite de manière collective, avec aussi le soutien de personnes qui travaillent au quotidien auprès de moi. Maintenant, il faut faire vivre l'endroit, mais je pense qu'il y en a un bon début.
Juste pour quelques précisions, tout à l'heure, on parlait rapidement du financement qui vient de fonds propres. Vous avez aussi été accompagné par les collectivités. On pense aux crêtes ardennaises, au programme Leader, si je ne dis pas de bêtises, vous avez mentionné.
Oui, alors effectivement, on a reçu très vite un accueil assez chaleureux de la part de la collectivité, enfin de la commune de Mazerny. Alors à l'époque, c'était Monsieur Collas qui était maire et Madame Houdard qui lui a succédé lors du dernier mandat. Mais autant l'un que l'autre nous ont très bien accueillis. Et puis effectivement, au niveau de la communauté de communes des crêtes préardennaises, on a eu un très bon accompagnement pour l'élaboration du projet Gîte. Et effectivement, ils nous ont aussi aidés à présenter un dossier pour prétendre à des subventions européennes via le programme Leader.
Merci beaucoup pour ces précisions, Yvon Lefebvre. Et puis j'ai envie de dire maintenant, il n'y a plus qu'à faire vivre ce site avec, on l'espère, des visiteurs qui seront très nombreux. On approche de la période estivale, les réservations sont lancées. Est-ce que dès maintenant, il y a peut-être déjà des gens qui ont booké leurs réservations? Est-ce que c'est dès maintenant qu'on y va? Comment ça se passe concrètement?
Alors concrètement, au niveau des réservations, on est présent sur les hébergeurs, on va dire, connus par tout le monde. Il y a encore quelques places pour cet été. C'est vrai que les Ardennes, malheureusement, ne sont pas une destination privilégiée des Français pour les vacances estivales, mais je pense qu'il y a quand même des très beaux coins à découvrir. Pour ceux qui aiment un petit peu retourner aux sources et se retrouver dans des cadres naturels, je pense que les Ardennes sont une belle destination.
C'était Yvon Lefebvre, copropriétaire du domaine des Loches avec son frère et sa sœur, qui était notre invité dans ce magazine Découverte.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on reste à Mazerny, où deux gîtes ont été inaugurés la semaine dernière au domaine des Loches. Vous l'avez compris, de nombreux élus étaient présents à cette occasion. Évidemment, le maire du village, Anoudar, le député de la première circonscription des Ardennes, Lionel Vuibert, Christophe Marot, représentant du conseil départemental des Ardennes, et Daniel Thomas, maire de Mondigny, mais aussi et surtout premier vice-président des Crêtes pré-ardennaises, natif du lieu le 27 février 1947. Il se souvient au micro de RCF France Ardennes.
Je suis natif des Loches. Je suis arrivé aux Loches en 1947 et juste après la guerre, mes parents avaient la fonction de régisseur. Ensuite, j'ai passé toute mon enfance au château des Loches et j'ai suivi les évolutions de la vie qui était à cette époque-là pas brillante. C'est-à-dire que je devais aller à l'école à l'âge de 6 ans à travers champs pour me rendre à Mazerny, lieu de l'école publique.
Daniel Thomas qui précise aussi ce qu'était le site à l'origine.
Quand je suis arrivé, le propriétaire à l'origine était monsieur Édouard Lecomte, président de la Cour des comptes de Paris et qui était le propriétaire des lieux. Ensuite, son fils Philippe a repris la succession. Et le domaine a un petit peu évolué parce que au début, ils avaient des vaches normandes. Le beurre se faisait à la ferme et ensuite, ils ont eu des vaches allaitantes.
Et il se réjouit de voir les lieux se transformer de la sorte.
Je suis très heureux de voir ce site évoluer comme il a évolué parce que ça lui rend de la valeur. Et puis, il est géré par des personnes qui sont très sympathiques et qui œuvrent pour le tourisme en Ardennes. Le tourisme en Ardennes est quelque chose de peu connu il y a une dizaine d'années encore et qu'aujourd'hui, on commence à prendre conscience que le tourisme est une raison économique.
Maire de la commune de Mondigny, mais aussi premier vice-président de la communauté de communes des Crêtes pré-ardennaises, Daniel Thomas a bien évidemment œuvré à l'accompagnement de Yvon Lefebvre, propriétaire du site avec ses frères et sœurs et de son projet de gîte.
Dans la communauté de communes, on exerce plusieurs compétences, dont la compétence tourisme. On attache beaucoup d'importance aux porteurs de projets pour le tourisme et la propriété de M. Lefebvre, qui a transformé le château initial en gîte de groupe de qualité et une réalisation de qualité qui met en valeur le site et qui accueille ce que le général de Gaulle avait prévu en son temps, les Ardennes vertes. Donc ça va tout à fait dans le sens du montage du tourisme en Ardennes et le bien-être des gîteurs qui seront dans ce domaine-là pour passer d'agréables journées.
L'occasion de préciser quels moyens la communauté de communes alloue à ces projets.
Les porteurs de projets, ils sont tous, leur cas à étudier au cas par cas. Et on donne une aide maximum sur un projet de 5000 euros pour des dépenses qui peuvent être naturellement beaucoup plus élevées. Mais le maximum qu'on donne pour un gîte est de 5000 euros. Étant donné qu'il y a deux gîtes, il a eu deux fois 5000 euros. Mais ensuite, il peut bénéficier des fonds européens leaders que la communauté de communes distribue sur des projets qui sont en accord avec la région pour le financer, des projets de rénovation, des projets de restructuration et même d'innovation.
Évidemment, une fois le projet lancé, la Comcom garde un œil attentif sur son évolution.
Tous les ans, il y a une réunion de tous les giteurs ou porteurs de projets de tourisme qui se réunissent et où on fait un point de l'évolution de leur projet.
Un grand merci à Daniel Thomas, premier vice-président de la communauté de communes des Crêtes Préardennaises et maire de Mondigny, mais aussi, comme on le disait au début de ce magazine, natif du domaine des Loches à Mazerny, d'avoir évoqué cette implantation puis cette inauguration de gîte. Ainsi se referme le magazine Forum pour cette saison 2022-2023 et on se retrouvera très certainement l'année prochaine. Bon été en compagnie de RCF.
Le 18-19 sur RCF.
Il nous reste quelques minutes à passer ensemble avant le journal régional. On vous avait promis de retrouver notre stagiaire à la rédaction, Raphaël Feillot, dans ce 18-19. Raphaël, bonsoir.
Bonsoir.
Nos auditeurs vous entendaient l'an dernier présenter la météo. Vous revenez sur la base du volontariat ici dans les studios de RCF. On imagine que c'est une expérience donc qui vous a plu. Mais il se pose cette question. Mais qui êtes-vous, Raphaël ?
Je m'appelle Raphaël Feillot. J'étais en 3e au collège Saint-Étienne, donc le cours Saint-François d'Assise cette année. Donc j'ai passé mon brevet il y a quelques semaines. J'attends toujours les résultats qui devraient arriver dans 2 jours.
Ça s'est bien passé quand même ? On a une petite idée des résultats qui vont tomber ?
Bah, j'espère avoir la mention très bien.
Donc on vise haut,
oui,
on est quand même plutôt serein par rapport au résultat global. On croise les doigts pour la mention.
Pour l'année prochaine, je devrais rentrer au lycée Stéphane Hessel d'Épernay avec l'option Bachibac qui me permet d'avoir un bac français et espagnol avec notamment des cours d'histoire-géographie en espagnol. J'essaye d'apprendre un maximum de langues car je désire devenir journaliste sportif. Et comme ce métier nécessite de beaucoup voyager, il faut que je puisse réussir à communiquer dans tous les pays. En effet, je suis fan de sport et plus particulièrement du football que je pratique depuis 4 ans en club après avoir fait 6 ans d'escrime.
Et vous soutenez quelle équipe, Raphaël ?
Donc je supporte le Stade de Reims depuis de nombreuses années et sinon à l'étranger, j'aime bien le Barça.
J'allais vous dire, je vous vois avec un maillot plutôt blaugrana, là, c'est pas très couleur rémoise tout ça, on n'est pas aux couleurs locales.
Je peux pas en mettre un tous les jours.
On verra bien si on en voit un autre d'ici la fin du stage.
C'est prévu. Sinon, l'année dernière, lors de mon année de 4e, j'ai donc pu réaliser un stage dans le cadre scolaire. La question ne s'est même pas posée pour moi. Je savais déjà que je voulais faire un stage de journalisme. C'est donc comme cela que j'ai découvert la radio RCF Reims-Ardennes, même si je l'avais déjà écoutée auparavant. Donc ce premier stage m'a beaucoup plu et m'a conforté dans mon idée de devenir journaliste.
Et là, vous êtes là de nouveau pendant l'été, pendant vos vacances scolaires, Raphaël ?
Oui, c'est pour ça. Ça montre vraiment que ce premier stage m'avait beaucoup plu. Et donc là, j'ai voulu réitérer ces moments et donc revenir pour perfectionner ma maîtrise au niveau des différents éléments que l'on peut apprendre avec un journaliste.
À noter qu'il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui est passé par RCF Reims-Ardennes, que nos auditeurs connaissent aussi sur RCF Cœur de Champagne, c'est Arnaud Valadon, il vous a accueilli à RMC cette année également.
Alors oui, donc en février dernier, j'ai eu la chance de pouvoir faire un autre stage à la radio RMC à Paris, aux côtés d'Arnaud Valadon. Donc cette fois-ci, j'ai pu découvrir le journalisme sportif, car RCF est plus une radio régionale qui est basée sur l'actualité, mais RMC, donc là, RMC Sport, j'ai pu parler de foot ou parler de toutes les actualités sportives comme le basket, le handball ou tous les autres sports.
Bon, c'était plutôt sympa. Nous, on vous recantonne à la tâche de la météo. C'est dans quelques instants à l'intérieur du journal régional. Merci, Raphaël.
Merci.
L'horloge flirte avec les 18h30, l'heure du journal, vous l'avez compris, sur RCF en région. Avec les titres de ce mercredi 5 juillet, journal court en 2 titres ce soir, présentation d'un tiers-lieu à Reims qui a ouvert récemment, quartier Orgeval, l'Oasis. À Épernay, le festival Voilà l'été fait son retour. Au cœur de la cité sparnassienne, concerts, films et spectacles articulés autour de la voix sont proposés depuis lundi, découverte.
RCF. RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
C'est inédit à Reims, la mise en place d'un tiers-lieu dédié à la famille et à la parentalité, situé au cœur du quartier d'Orgeval, sur la place Pierre de Fermat. L'Oasis, c'est comme ça qu'on choisit de l'appeler les habitants du quartier, propose un lieu de ressources pour toutes les familles, qu'elles rencontrent des difficultés dans leur parentalité ou non, mais offre aussi un espace d'échange, de partage et de soutien aux Rémoises et aux Rémois.
Initié en 2020, le projet a été retardé par la Covid mais voit finalement le jour dans le quartier d'Orgeval. Les deux cellules commerciales de 88 mètres carrés chacune font office de refuge pour toutes les familles. Quelle que soit la problématique que vous rencontrez, l'Oasis vous ouvre ses portes. Arnaud Robinet, le maire de Reims, n'a pas caché sa satisfaction au moment d'inaugurer le tiers-lieu. Il en dit un peu plus sur son rôle.
C'est un lieu de rencontre destiné aux parents, aux familles, aux jeunes, afin de renforcer les liens sociaux, l'intergénérationnel, mais également permettre de porter des projets, c'est-à-dire s'investir pour le quartier, mais également porter une politique et des discours d'une politique familiale où chacun est responsabilisé. C'est assez innovant en France. Donc on parle d'entrepreneuriat, on parle de famille, on parle aussi de culture, de sport. Voilà, c'est vraiment un nouveau lieu de rencontre sur le quartier Orgeval, au cœur d'Orgeval, sur la place de Fermat.
Ateliers, tables rondes, temps conviviaux, de nombreux types d'animations seront organisés toujours dans le but d'aider les familles. Arnaud Robinet ajoute que l'ouverture de l'Oasis dans le quartier d'Orgeval s'inscrit dans une politique bien précise entamée précédemment.
Ça a été une longue réflexion dans le cadre de la rénovation urbaine de ce quartier Orgeval, également sur le devenir de la place de Fermat que nous avons refaite lors du premier mandat, telle que la place qu'elle est aujourd'hui, elle n'était pas comme ça il y a encore quelques temps. Et puis sur la reconquête aussi des commerces, des cellules commerciales, et donc on veut y apporter du service. C'est vraiment une politique du aller vers. Donc vous avez sur cette place la mairie de proximité, vous avez la bibliothèque pour tous, qui est un lieu culturel. Vous avez donc maintenant ce nouveau tiers-lieu. Donc voilà, c'est apporter du service, montrer qu'il n'y a pas de quartier abandonné dans notre ville. C'est-à-dire que la ville est présente partout au service de ses habitants.
On l'a dit, c'est un refuge pour les familles, mais pas que. Plusieurs associations qui n'ont pas de site d'ancrage, tels que Un Petit Bagage d'Amour ou le Club Poussette, souhaitent participer à la vie de ce nouveau lieu.
Un reportage de Luca Mastrolillo. L'Oasis est désormais ouvert à tous. C'est place de Fermat dans le quartier d'Orgeval que tout se passe. Le festival Voilà l'été est de retour à Épernay depuis le 3 juillet et ce jusqu'au 29 juillet prochain. La ville accueillera de nombreux musiciens de la région mais aussi Bertrand Belin, tête d'affiche de cette édition. La musique et le cinéma seront mis à l'honneur pendant ce mois de concerts et de projections. Sophie Hercher, adjointe à la mairie d'Épernay, en charge de la culture et à la jeunesse.
Cette nouvelle édition, je dirais, elle est un peu sur la lignée de ce qu'on avait fait un petit peu l'année dernière, comment on avait essayé de faire un tout petit peu évoluer la manifestation dans un contexte où les gens ont envie de sortir, de faire des découvertes culturelles, artistiques, un moment de convivialité, de partage. Donc autour de ça, on a construit cette nouvelle édition, donc avec un certain nombre de soirées, plutôt le vendredi, le samedi et le lundi, dans une grande diversité musicale, avec la part belle aussi faite au cinéma, à travers plusieurs axes, et il y aura différents types, on va dire, de projections. La plupart des concerts se font dans les jardins de l'Hôtel de Ville. Un sera au théâtre Gabriel Dorzia, et puis il y aura une soirée qui sera faite dans le jardin du musée. Plusieurs groupes, ou en tous les cas au minimum deux, avec une couleur un petit peu différente au fur et à mesure de la soirée. Sur le lien avec le cinéma, une projection plein air dans le jardin du musée, dans le cadre d'une soirée qui sera assez longue, avec des animations musicales, et puis une projection, donc on attend qu'il fasse nuit, et donc là, sur un grand écran, on fait une projection plein air. Et cette année, la programmation cinématographique est autour de l'œuvre de Damien Chazelle, et donc le film qui sera projeté en plein air, ça sera La La Land.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten pour cette 8e édition du festival Voilà l'été. Rendez-vous donc depuis le 3 juillet jusqu'au 29 juillet du côté d'Épernay. Le programme complet est à consulter sur le site de la ville. Avant de refermer ce journal ce mercredi, on est toujours avec notre stagiaire à la rédaction, Raphaël Feillot, qui nous a concocté la météo. Alors Raphaël, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce jeudi ?
Donc ce jeudi, le territoire sera recouvert de multiples rayons de soleil lors de la matinée. Les températures avoisineront les 14 degrés comme à Saint-Dizier, Troyes ou encore Châlons-en-Champagne. Elles augmenteront au fur et à mesure de la journée pour atteindre les 23-24 degrés dans la soirée comme à Épernay ou Chaumont. En ce 187e jour de l'année, nous fêterons les Mariettes. Bonne fin de soirée sur l'antenne d'RCF Reims-Ardennes et demain, pensez à mettre de la crème solaire.
Merci Raphaël. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF. Pour la deuxième partie d'émission, c'est Jean-Pierre Benoît qui prend le relais avec Marie-Dominique Bride pour un témoignage riche et exceptionnel.
«
le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Avec nous aujourd'hui Marie-Dominique Bride. Marie-Dominique Bride, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on avait eu le grand plaisir de vous accueillir il y a quelques semaines lors de la parution de votre livre « Témoignage du temps présent, l'abbaye de Saint-Hilaire ». Et on rappelle que vous êtes la fille de Monsieur Bride, René Bride, qui était un personnage connu puisqu'il fut maire de Reims un peu avant Jean Tétinger. Et vous avez vécu à Reims, vous êtes aujourd'hui à Paris, on va refaire votre parcours et votre itinéraire. Alors on présente cette émission parce que votre parcours pourra donner sans doute un peu d'espérance à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur RCF. Marie-Dominique Bride, on va commencer par un événement qui a eu des conséquences, c'est votre accident. Vous avez 21 ans, que se passe-t-il? Vous êtes je crois étudiante.
Oui, à l'âge âgé de 21 ans, j'étais étudiante à Reims en quatrième année de pharmacie, quand j'ai eu un grave accident de voiture qui m'a plongé totalement dans la cécité et c'était le noir absolu. La vie bascule, tous les repères disparaissent. J'ai crié mon désespoir, je suis dépendante.
Je suis dépendante. Ça transformer complètement votre manière d'être. Vous avez dû réapprendre, un peu comme un enfant d'une certaine façon.
Et oui, vous le dites très bien, comme un enfant, j'ai dû réapprendre les apprentissages de base dans une maison familiale que l'on connaît et que l'on ne voit plus. Comment se diriger, comment manger, comment s'habiller. Enfin, la vie est bouleversée. J'étais étudiante la vie universitaire, il n'y avait plus de projet.
Mais vous avez eu quand même la chance, parce que vous n'étiez tout de même pas toute seule, vous étiez quand même entourée, vous aviez une famille.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance et je tiens à le signaler, j'étais entourée par une famille très aimante qui m'ont entourée et aussi avec deux sœurs en particulier qui, avec leur charisme particulier, qui m'ont bien aidée.
Mais alors justement, Marie-Dominique Bride, tout d'un coup, vous êtes posé la question, comment faire pour survivre? Sans doute peut-être aussi aller au-devant de l'autre.
Eh bien écoutez, j'ai eu par intuition profonde que j'avais besoin, pour sortir de ce séisme, d'aller à la rencontre des autres pour être sur le terrain de la vie. Et quoi de plus naturel, après 2 mois d'hôpitaux, de retrouver ses amis étudiants? Et lorsque je les ai retrouvés, j'ai senti qu'ils étaient mal à l'aise. Ils se sentaient mal à l'aise, ils ne savaient pas comment faire. Alors en moi, je me suis dit, mais si tu avais ta meilleure amie qui ne voyait pas, comment tu ferais? Eh bien, c'est parce que je me suis mis à leur place que j'ai pu trouver en moi les solutions pour être à l'aise et surtout pour ne pas me sentir exclue et isolée. Parce que quand la cécité, le noir est autour de vous, on a peur d'être isolé, exclu. Alors j'ai créé un nouveau code de relation avec eux. Comment, par exemple, me donner le bras, qu'ils se nomment quand ils me rencontrent. Et ça les a détendus. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois au courant de la vie. Il fallait aussi que, pour trouver ma place avec eux dans ma vie personnelle, il fallait, pour faciliter la relation, parce que ce n'est pas simple. Hein. Alors, j'ai voulu montrer la meilleure image de moi-même pour faciliter la relation.
Il faut dire d'ailleurs pour nos auditeurs qui nous écoutent, parce qu'à la radio, on ne voit pas les personnes non plus. La première rencontre, elle est en général visuelle. Vous le dites, l'autre me voit, mais moi je ne le vois pas. Donc, c'est totalement nouveau.
C'est totalement nouveau et ça, je l'ai ressenti parce que c'est quand même impressionnant pour moi de saluer quelqu'un alors que je ne le vois pas et l'autre aussi. Donc, j'ai tout fait pour mettre à l'aise et pour me sentir à l'aise dans cette relation. Donc, il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, pour ne pas se sentir exclu, pour ne pas se sentir isolé et surtout de faciliter la relation pour qu'elle soit plus fluide.
Et c'est votre relation avec vous-même, ma relation avec moi-même, dites-vous, parce qu'il fallait rompre avec le noir, donc se représenter d'une certaine façon le monde.
Et oui, j'avais soif de recréer un monde, de me l'imaginer, de mettre des couleurs dans ce noir, des mouvements. J'avais envie en profondeur. Et pour ça, si vous n'entretenez pas votre mémoire visuelle, eh bien, la vie, les décors, les paysages s'estompent, ça devient dans la grisaille. Et c'est une véritable souffrance. Et on est privé un peu de la relation avec les autres. Alors du coup, pour entretenir la mémoire visuelle, j'ai créé toute une relation du donner et recevoir. J'ai créé une relation de réciprocité avec mes amis pour qu'ils m'expliquent les monuments, le mouvement de la vie, les couleurs. Oui, parce qu'au bout d'un moment, tout s'estompe. Et mes amis étaient très heureux de me rendre ce service. Et ils me disaient après, mais grâce à toi, on apprend à voir avec attention pour te décrire au mieux. Donc, cette belle chaîne pour rester dans le mouvement de la vie et rester à l'aise aussi, eh bien, j'ai créé cette relation de terrain de réciprocité et que je continue toujours, même maintenant, après de nombreuses années.
Marie-Dominique, tout cela, c'est l'univers que vous avez dû recréer, mais aussi vous avez dû retrouver votre place professionnelle. Et là, ça devient aussi difficile, même très difficile d'une certaine façon.
Oui, je dois avouer que ça a été l'étape la plus difficile parce que j'avais continué mes études, j'ai refait toutes sortes d'études, mais je n'arrivais pas à trouver ma place. Et ça, vous le savez bien, Jean-Pierre Benoît, quand on n'a pas un statut professionnel, ben on n'est pas très à l'aise.
Et là, vous l'avez trouvé à un moment donné?
Oui, je l'ai trouvé parce que j'ai une amie qui, à l'âge de 33 ans, donc l'accident de voiture à 21 ans, 33 ans, j'ai une amie m'a aidé à trouver mon fil d'or et j'ai donc refait des études pendant 3 ans pour avoir le diplôme de ma sœur kinésithérapeute.
Vous devenez kiné?
Oui, exactement. Et là, j'étais sauvée. J'avais trouvé ma mission, ma vie, ma...
Et peut-être une paix intérieure, d'une certaine façon.
Oui, et c'est à partir, vous avez tout à fait raison, c'est à partir du moment où j'ai trouvé ma mission, mon travail, que la paix intérieure est venue petit à petit, peu à peu, parce que j'étais reconnue dans la société, j'avais trouvé mon idéal et ma sœur kinésithérapeute. Et après avoir fait beaucoup de formations, de stages, de travail personnel, je me suis réalisée dans mes capacités relationnelles et professionnelles pour accueillir les personnes, avec l'art d'accueillir les gens dans ce qu'ils sont en profondeur. J'étais sauvée, je me sentais utile et j'étais vraiment reconnue.
Vous étiez dans la joie presque, on peut dire.
Oui, j'étais dans la joie et c'était une joie, cette...
Rencontrer l'autre, réussir professionnellement, se sentir utile. Oui. Bref, là, vous avez franchi un cap extraordinaire.
C'était vraiment mon cap et après, beaucoup de choses sont...
Ça a été un déclic.
Ça a été un déclic.
Alors, vous avez souhaité, pour illustrer cette émission, choisir de la musique qui, j'allais dire, qui nous tire un peu vers le haut. On va l'écouter quelques instants avec vous. C'est Jean-Sébastien Bach, un prélude numéro 1, avec Alexandre Tarot. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, Marie-Dominique Bride, tout de suite après. Cette musique.
Oui.
Parce que, au fond, vous avez repris le piano à un moment donné.
Oui, et j'ai repris le piano avec beaucoup de joie. Je vais le reprendre encore plus tard. Et c'est mon morceau avec lequel j'ai toujours repris mon piano. Le prélude en do de Jean-Sébastien K. Ce morceau me porte, me transporte.
La musique transporte. Et quand on ne me voit pas, la musique nous mène à aller plus loin, à aller plus haut, à provoquer une joie intérieure, une joie qui finalement. Une fois cette réalisation professionnelle comme kiné, ne vous a pas quitté, ça vous a redonné une joie de vivre d'une certaine façon.
Bien sûr.
Alors justement, quelles sont les qualités qui vous ont aidé dans ce parcours de reconstruction? La vue, vous l'avez perdue. Mais la vie, vous ne l'avez pas perdue, Marie-Dominique.
Voilà, j'aime beaucoup cette phrase parce que j'ai perdu la vue, mais je n'ai pas perdu la vie. Et ce qui m'a vraiment été le moteur de ma reconstruction, ça a été une envie de vivre envers et contre tout et l'amour de la vie. Voilà. Et donc, il y a eu du courage, de la volonté, était toujours ouvert vers les autres, etc., etc. Et en même temps, cet handicap qui m'est tombé, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne peux pas le changer, mais je peux changer mon regard sur le handicap.
Vous étiez sans doute très organisé, mais dans votre vie nouvelle, avec le travail, vous aviez sans doute besoin de retrouver le sens de l'organisation. Et quand ça ne marche pas dans le plan A, vous devez peut-être trouver un plan B.
Oui, bah bien sûr, il faut des plans B, il faut anticiper, il faut avoir toutes sortes de ressources, d'inventivité, de créativité. Voilà. Après, avec toute l'expérience, j'arrive maintenant à, pour ne pas aussi être autonome, ne pas toujours demander à quelqu'un.
Je me permets un petit commentaire. Vous avez une certaine personnalité quand même, parce qu'il faut une volonté pour ça. Vous dites, bon, il faut de l'espérance, d'accord, mais enfin, vous aviez quand même un certain caractère, une certaine force en vous-même qui vous portait, qui vous permettait de surmonter les obstacles.
Oui, ben, j'ai eu beaucoup de volonté, j'ai eu beaucoup de courage, mais en même temps, je me disais, on doit être acteur de sa vie et qu'en même temps, un handicap, quel qu'il soit, peut être un tremplin pour être une autre que soi-même, pour être un tremplin pour une vie nouvelle. Et à ce moment-là, il faut quand même activer les moteurs intérieurs. Mais je savais au profond de moi-même quand même que j'avais reçu des forces intérieures qui me permettaient de traverser. C'est quand même un handicap tellement fort. Et qu'en même temps, je savais que j'avais ces capacités-là, et puis d'être très bien entouré, ça m'a beaucoup aussi aidé. Mais j'ai toujours su que d'autres personnes n'ont pas les mêmes capacités que moi. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose à dire, c'est que qui que l'on soit, quel que soit le handicap, on a toujours à essayer de le comprendre, de voir qu'est-ce que je vais faire de ce handicap. Et pour le traverser, pour le dépasser, pour donner un sens à l'épreuve, un sens à sa vie qui va vous aider à vous réaliser.
Mais Marie-Dominique, il faut quand même parfois lâcher les peurs. Il faut aller au-delà. Et puis parfois réaliser des exploits que d'autres ne s'attendraient pas. Il vous est arrivé de faire des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire ?
Oui, c'est vrai, je ne les ai pas cherchées, mais elles sont venues à moi. Par exemple, j'ai des amis qui m'ont proposé d'être invité pour aller faire du ski. Et j'ai eu en moi-même toujours, au lieu de dire à mes peurs, bah non, j'ose pas, je fais pas, j'ai toujours dit oui aux propositions. Parce que je me dis, c'est l'occasion, l'opportunité d'aller au-delà de mes peurs et puis de relever ce défi. Donc, en allant régulièrement au ski, j'ai fait une belle alliance avec un professeur qui a cru en moi, c'est très important.
Mais ceux qui nous écoutent et qui sont dans des situations comparables avec des formes de handicap ou d'autres, ils se disent, bah, c'est vrai qu'il faut aller au bout et puis c'est pas facile, mais ça vous a donné aussi une joie quand on réalise ça. On se dit quand même, je suis capable de faire ça.
Voilà, et qu'au-delà du défi, parce que c'en est, mais moi, j'ai ressenti une joie intérieure d'avoir lâché mes peurs pour cette expérience. Et c'était vraiment une expérience fondatrice. Et cette joie intérieure, je ne l'arrive pas souvent, ni je la retrouve pas partout.
Mais alors, je vous interromps, Marie-Dominique, parce que le temps passe vite avec vous. Vous êtes allée dans des écoles aussi. Vous intervenez parfois dans des classes avec des jeunes autour du handicap.
Oui, j'ai été demandée, ça fait des années, classe de terminale, etc., et classe de quatrième. Et j'étais demandée pour parler autour du handicap, pour essayer de créer un partage avec les jeunes. J'adore les partages et de leur essayer de les éclairer en leur donnant des repères, des outils. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, à la dernière école où j'étais en novembre, les élèves de terminale préparent leurs questions. Et là, cette année, il y avait des questions, dont une en particulier qui était très forte, qui a résonné en moi. Madame, on perd la vue. Est-ce réellement une perte? Alors là, quelle question? C'est comme un devoir de philo.
Et bah moi, oui, j'allais dire, Marie-Dominique, vous avez 4 heures là.
Oui, pour voilà. Répondre à la question. Et c'est là où j'ai répondu, j'ai perdu la vue, mais je n'ai pas perdu la vie et j'ai développé.
Alors l'essentiel, ça vous y tenez à nous le dire, quel est l'essentiel?
Ah bah l'essentiel, je veux dire, ce sont à la fois mes belles phrases qui me portent et qui m'habitent, une à une, voilà. L'essentiel, c'est pas tant ce que nous avons été, l'essentiel, c'est ce que nous sommes. et ce que nous devenons. Hein, c'est toujours entre le passé, qui est une leçon de vie, qui nous donne de la force et sagesse, mais l'essentiel, c'est le moment présent, la dynamique intérieure, ce que je suis et ce que je vais devenir. Et l'autre aussi très importante, mes yeux se sont fermés à la lumière extérieure et ils se sont ouverts à la lumière intérieure. J'ai quitté un peu le, si on peut dire, le monde des apparences pour m'ouvrir à l'essentiel des êtres et des choses. Et comme le dit si bien le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Et vous dites que parfois, il y a des regards qui pourraient vous figer dans vos situations.
Oui, parce que...
Et puis, il y en a d'autres qui vous relancent d'une certaine façon.
Voilà, si l'essentiel est invisible pour les yeux, mais comme vous venez de dire, il y a des regards qui figent l'autre dans son état et d'autres regards qui font être, qui font naître, qui croient en vous, des regards de confiance, des regards d'amour, qui aident la personne à se relever, à se dépasser, voyez.
Alors, on a envie quand même, parce que cette émission avance, il y a encore deux ou trois choses importantes que vous avez à nous dire, Marie-Dominique Bride, sur la dynamique du don. Donner de soi-même un sourire.
Donner de soi-même un sourire, du temps, une qualité de présence. On ne se rend pas compte que quand on donne et qu'on se donne, on se fait plaisir, on fait plaisir à l'autre. Et tout ce qui fait du bien à l'autre vous fait du bien. C'est une chaîne du donner et recevoir. Et cette dynamique du don m'a toujours porté. Et voilà.
Alors, il y a ça, faire de la fragilité une force. Hein,
faire de la fragilité une force, bien sûr. Et ça, on n'a jamais fini pour aller vers les autres. Et moi, grâce à ma cécité, dans l'exercice de mon travail professionnel, je perçois mieux les personnes. Je les ressens dans leur personne et pas non plus dans leur souffrance ou leur handicap. J'arrive à créer un lien de confiance. Voilà. Donc, les effets positifs d'un handicap.
Alors, vous dites aussi, parce que parmi celles et ceux qui nous écoutent, on n'est pas tous nés sous la même étoile. Mais malgré tout, il faut toujours, malgré tout ce qu'on vit, prendre conscience qu'on est entouré, qu'on a des capacités, et que des autres personnes, quand même, vous avez pu avoir la chance, quand même, malgré vos qualités, d'avoir autour de vous des gens qui vous ont porté, qui vous ont aidé, qui vous ont accompagné.
Oui, on n'est pas né sous la même étoile. Moi, je peux dire que j'ai eu la chance, comme vous avez dit, d'avoir une bonne étoile. Mais tout le monde ne l'a pas, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, mais en même temps, on a tous quand même une responsabilité. Normalement, responsabilité, c'est j'ai à répondre un peu, à comprendre de ce qui m'arrive, qu'est-ce que je peux en faire de ce qui m'arrive, pour ne pas s'enfermer de s'enfermer dans son épreuve et créer cette dynamique. Et quoi qu'il arrive, on a toujours à être acteur de sa vie, à participer. Mais pour ça, cela implique d'être aidé, accompagné et bien entouré. On pourrait dire la petite phrase du colibri qui dit pour éteindre le grand feu de la forêt, avec son petit bec, il a donné une goutte d'eau. Chaque geste est important, comme Mère Teresa qui dit j'ai essayé de donner une petite goutte d'amour dans ta saute en détresse. Si la petite goutte d'amour n'existait pas, elle manquerait à l'océan.
Alors, en conclusion, c'est pas tout à fait la conclusion, mais il nous reste 3 ou 4 minutes, hein, Marie-Dominique. La vie est un bien très précieux, vous le dites souvent. Cultivons notre force intérieure. C'est beau la vie, malgré tout.
Oui, c'est beau la vie malgré tout. Et parce que la vie, c'est l'espoir de tous les possibles. Et que la vie, c'est beau malgré tout. La vie, c'est beau et en même temps... Il y a toujours une phrase qui m'a accompagnée, qui m'accompagne toujours et qui est un peu ma signature. Je dis toujours « haut les cœurs ». Et pour moi, « haut les cœurs », ça veut dire « allons vers le haut, allons vers le beau, allons vers le bien, allons vers le vrai ». Ainsi, nous deviendrons des artisans du beau, du bien et du vrai. Et nous serons des artisans de plus d'humanité et de plus de fraternité.
On va se retrouver dans une poignée de secondes, juste après avoir entendu Vous avez dit « C'est beau la vie ». Alors, quand on dit « C'est beau la vie », on pense tout de suite à Jean Ferrat. C'est une musique, c'est un chanteur que vous appréciez. Peut-être aussi que ses origines du côté de l'Ardèche, du côté d'Entraigues, vous qui êtes un peu plus bas, du côté de Saint-Hilaire, dans votre dernier ouvrage, vous entraîne un peu vers le sud, d'une façon générale. Mais « C'est beau la vie », ça a une autre dimension qui nous porte. Jean Ferrat.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée.
On a envie de fredonner avec Jean Ferrat, Marie-Dominique Brézou. Oui. Vous la connaissez par cœur, cette chanson. Jean Ferrat, c'est beau la vie, c'est le résumé de ce que vous nous dire dans cette émission. Pour rien au monde, je ne voudrais être quelqu'un d'autre. Vous êtes heureuse de vivre et de tout ce que vous avez découvert.
Oui, voilà, c'est ma conclusion, mon message d'espérance. Voilà, pour rien au monde, je voudrais être quelqu'un d'autre. Je suis heureuse de vivre avec tout ce que j'ai vécu, découvert, expérimenté. Et voilà, que c'est beau la vie. Et...
Vous dites c'est un art de vivre, mais au fond, on sent que vous avez tout de même une force intérieure. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire c'est une force spirituel qui vous porte, ou est-ce que c'est aller peut-être au-delà de ce que vous souhaitez nous faire passer comme message?
Non, je me suis rendu compte en faisant la relecture de ma vie que j'avais une force spirituelle en moi et qui a fait grandir ma foi. Je me suis rendu compte qu'à travers toutes les rencontres, les personnages que j'ai rencontrés, qui m'ont aidé comme par hasard à me tirer de situations difficiles, et ben que je n'étais pas seule, que le Seigneur était là, je ne me rendais pas compte, et ça me donne de la joie, de la confiance, et ça accroît ma force tout court et ma force surtout spirituelle. Voilà, c'est...
Merci en tout cas, Marie-Dominique Bride. Alors faites-nous une promesse, c'est que finalement, quand on a fait une émission comme ça, qui va nous redonner une morale, peut-être à des tas d'auditeurs aujourd'hui de RCF, qui nous invitent à l'espérance, qui nous invitent au progrès, à regarder vers le haut, ben vous allez revenir.
C'est avec joie.
Vous allez nous faire une autre émission sur un autre thème. Vous nous reparlerez de Saint-Hilaire, vous nous parlerez des fleurs, des endroits que vous avez rencontrés et que vous continuez de rencontrer. Vos patients en tant que kiné, vous avez sans doute des histoires. Et puis, cette musique qui nous a porté de Bach à Jean Ferrat et qui nous a accompagnés au cours de cette émission. Merci de nous avoir rayonné en quelque sorte cette joie intérieure et nous l'avoir fait partager. Merci Marie-Dominique Bride.
Merci Jean-Pierre Benoît.
Et à bientôt sur RCF.
Et merci à la vie.
Merci, au revoir.
Merci Marie-Dominique Bride pour ce témoignage riche, exceptionnel, bienveillant et surtout porteur d'espoir. Merci Jean-Pierre Benoît. Ainsi se referme ce 18-19 en Champagne. On se retrouve demain, jeudi 18h10, pour un nouveau magazine régional avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Tout de suite, c'est l'information nationale qui prend le relais. Bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.